Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Ces schémas finissent par nous imposer quoi ? Des attentes, nous finissent par nous imposer une pression qui est qu'il faut faire ça et nos parents sont déçus si on le fait pas parce qu'ils réfléchissent dans ce moule et nous on se met à réfléchir dans le moule et donc on est déçus, on gagnerait en bien-être, en santé mentale, à se relâcher la pression.
Le moins, mais le mieux, la sobriété. Celle que l'on entend un peu partout, sans trop savoir comment la matérialiser au quotidien. On pense la sobriété comme une succession de privations, de refus ou de contraintes. Pourtant, la sobriété est un incroyable levier de changement de nos sociétés. Apprendre à vivre avec moins, mais avec mieux. Repenser notre vie sous le spectre de la sobriété, c'est se décaper de tout superflu. Moins de relations, plus de vrais amis. Moins d'habits, plus de qualité. Moins de cases à cocher sur nos listes, plus de priorisation. Si la sobriété est aujourd'hui indispensable pour pallier aux problèmes écologiques, elle est surtout un puissant vecteur d'alignement personnel. Benjamin Demolien s'en est l'exemple. C'est jusqu'à repenser son rapport au travail que la sobriété l'a amené. Alors plus qu'un mot à la mode, la sobriété traduit une tendance profonde de transformation de nos vies. Benjamin a transformé la sienne avec elle et nous inspire à en faire autant. Dans cet épisode, on parle donc de sobriété, de travail et de l'importance de la solitude. J'espère, plus que tout, que cet épisode t'invitera à opter pour une vie plus sobre. Salut Benjamin.
Salut Victoria.
Comment tu vas ? Tu viens d'arriver à Paris toi aussi, tu arrives de Marseille. Comment tu te sens au milieu de cette foule ?
Eh ben, je me sens un peu étranger.
Bienvenue dans le club.
Oui, tout le monde est dans son beau costume et moi je débarque du sud, du soleil et voilà, c'est toujours une sensation étrange de revenir à Paris où le monde a l'air d'être orienté vers le travail et la productivité alors que moi je suis plutôt orienté vers la farniente.
Mais qui n'est pas opposé à la productivité non plus ?
Non, les deux se combinent bien. De toute façon, moi, je suis dans la sobriété, donc j'ai pas besoin de produire trop.
On va parler de cette fameuse sobriété qui est au centre de ta vie. Tu es éco-aventurier et fondateur d'Expédition Zéro. On va en reparler. Tu as grandi en Bretagne, au bord de la mer, donc bien loin des villes. Quel petit garçon tu étais, Benjamin ?
Turbulent. Écoute, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse.
Ouais.
Effectivement, en Bretagne, à l'Armor-Plage, à deux pas de l'océan, avec une chance inouïe. Donc j'ai eu une enfance très cool, où l'école était devant la plage, donc on faisait des châteaux de sable à la récré. Et mes parents surtout étaient fans d'aventures, de voyages, d'exploration, plutôt sous une forme sobre finalement, de débrouillardise.
Déjà.
Bah oui, parce que le scoutisme, alors on en pense ce qu'on veut, hein, c'est sûr que c'est des valeurs chrétiennes, etc. C'est connoté, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, c'est assez enrichissant parce que on nous met dans la forêt à faire des camps et des cabanes. Et ça, je pense que c'est une incroyable chance quand on voit comment on est envahi maintenant par les écrans, notamment les plus petits. Et ça me fait assez peur. Et nous, on passait notre temps à construire des choses avec nos mains dans les bois. Et ça, c'était magique.
Et malgré ce contact quand même assez direct et très précieux avec la nature des tout petits, tu as quand même collé au cliché et au schéma classique. Tu as fait une école d'ingénieur puis une école de commerce, le jackpot. Ouais. À 20 ans, comment tu imaginais ta vie future ?
Ah ouais, bah alors moi j'étais totalement dans le cliché, ouais. Donc je suis parti dans cette école d'ingénieur généraliste, mais j'y suis allé parce que je ne savais pas quoi faire. Mes parents me disaient t'es un garçon, en plus j'étais dans une famille entourée de filles Et pour eux, ça paraissait une évidence que je fasse des études scientifiques et une école d'ingénieur.
Donc c'était le choix de tes parents avant d'être le tien.
Ouais, moi j'avais pas beaucoup réfléchi à tout ça. À vrai dire, j'avais un truc qui me motivait pour rejoindre l'école que j'ai rejoint, à savoir l'ICAM. Ils nous proposaient pendant ces 5 ans d'études en école d'ingénieur de couper pendant 5 mois au milieu des études pour faire un projet personnel. Et les seules règles à respecter, c'était 1. D'être à plus de 200 km de sa maison, 2. De s'auto-financer, et 3. De pas être pendant au moins 2 mois sur les 4 avec des amis ou sa famille. C'était les seules règles, ils nous faisaient confiance et l'idée c'était qu'on devienne des hommes ou des femmes, qu'on grandisse en allant découvrir l'inconnu quoi. Et ça c'est ça qui m'a séduit et qui a fait que j'ai postulé dans cette école notamment.
L'inconnu c'est quoi pour toi ?
Et bah à ce moment-là, l'inconnu c'est aller rencontrer les différentes faces du monde musulman. Et j'avais très peur du monde musulman qui est quand même un monde qu'on nous décrit de manière assez terrifiante dans les médias, qui serait assez hostile à notre civilisation. Donc moi, je me disais, il faut que je comprenne et que j'aille voir de mes propres yeux. Donc c'était ça, à l'époque, ce qui me fascinait. Et donc je suis allé, je suis parti 4 mois et demi en stop, traverser le monde musulman en allant rencontrer des chiites, des sunnites, des ismaélites, des wahhabites.
Tu disais que le monde musulman te faisait peur, le monde globalement, dans sa généralité. Est-ce qu'il te faisait peur aussi ?
Non, alors le monde musulman me faisait peur, le monde global m'attirait, m'excitait beaucoup, c'est-à-dire j'ai grandi dans une culture, je pense, ça a été très fort les dernières décennies, une culture du village-monde, où on nous disait que maintenant on pouvait aller un peu partout et profiter, et suffisait de payer un billet d'avion pas très cher et explorer, et que c'était devenu le terrain de jeu. Donc moi, j'avais vraiment envie de tout découvrir. J'avais un appétit féroce pour découvrir le monde. Donc il m'attirait le monde plus qu'autre chose.
Donc c'était finalement les débuts d'Expédition Zéro, si on remonte à ton parcours. Avant de lancer Expédition Zéro, qui propose des aventures sportives itinérantes en respectant 3 zéros, donc zéro impact carbone, zéro déchet et zéro matériel neuf. Avant ça, tu as quand même passé 2 ans dans la Silicon Valley. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période de vie ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, après mon école d'ingénieur, j'ai fait un master en école de commerce. Je suis parti le faire à Singapour. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas tant la tech, c'était que depuis toujours, j'aime bien aller là où les autres vont pas trop. Et à l'époque, c'était en 2011-2012, les start-up tech, la Start-up Nation, c'était encore quand même assez embryonnaire. Enfin, il y avait déjà eu des choses, mais je voyais bien que tous mes copains allaient faire soit dans des boîtes, dans des grandes entreprises, de la prod, soit du conseil, soit de la finance ou je sais pas quoi. Et pas grand monde qui allait dans la startup. Et moi, je voulais aller parce que je me disais, je sens que c'est un peu l'avenir, ce truc, la transformation digitale. Et je suis parti dans la mecque de la tech, savoir la Silicon Valley. Et voilà, je suis parti 2 ans faire du développement commercial pour une entreprise qui vend des hackathons, donc des compétitions de développeurs web pour que les entreprises puissent les recruter derrière. Et j'ai fait ça là-bas, je vendais ça à Google, à Citigroup, à plein d'entreprises américaines. Je me suis pas mal baladé aux États-Unis, c'était super intéressant.
Mais finalement, quand même assez opposé à toutes tes valeurs écologiques et sobriété, quoi.
Complet. J'étais
le monde opposé à ça.
C'était le monde opposé. J'étais même tout mon parcours depuis 6-7 ans, c'était de la consommation de nature, de la consommation de culture. Je voulais voir tout, aller partout. La Startup Nation, c'est quand même l'accélération. Enfin, on parle que d'accélérer, d'hypercroissance, de levée de fonds. C'était pas du tout la sobriété, quoi.
Comment s'est faite cette transition, finalement ?
Eh ben, cette transition, elle s'est fait là-bas, plusieurs petits déclics. Enfin, moi, j'ai toujours été un fan d'aventure en pleine nature.
Oui.
Depuis l'Armor Plage.
Voilà, la fameuse.
Donc là-bas, j'ai continué à faire plein d'aventures. Il y a la nature assez incroyable autour de San Francisco. Enfin, c'est un sacré environnement. Mais c'est sûr que là-bas, j'ai commencé à pas être super bien dans mon boulot pour plusieurs raisons, parce que je trouvais que c'était un peu... Il y avait une ambiance un peu toxique, on nous demandait pas mal de performances et je voyais bien que ça collait pas trop au fond de moi dans mon ventre,
dans
dans mes tripes, il y avait quelque chose qui était pas aligné. Et à un moment, j'ai vu plusieurs chiffres de pollution, et notamment sur la pollution plastique. J'ai vu des chiffres assez alarmants sur la quantité de déchets qu'on déversait dans l'océan. Et ça m'a fait un électrochoc, en fait, vraiment. Moi, je suis un gros passionné de surf et de kitesurf. Et bon, maintenant, je fais moins de surf et plus de kite.
C'est bah oui, en Méditerranée, c'est bon.
Ouais, ça marche moins bien. Je me suis dit, mais attends, mais c'est fou parce que ce qui me rend le plus heureux, c'est pas la Startup Nation, c'est quand je suis dans l'eau le matin ou le soir et on met autant de déchets dans cet océan magnifique. Et puis à San Francisco, il y a une nature qui est dingue. On fait du kite ou du surf et on voit des dauphins, on voit même des requins et des baleines et des phoques. Et c'est explosif, c'est magnifique. Et on se dit qu'on est en train d'injecter plein de plastique dans ces animaux. Moi, ça m'avait vraiment mis mal. Et de fil en aiguille, en regardant des documentaires sur le sujet, puis j'ai vu le film Demain. J'ai fait mon processus et là, il y a une dissonance cognitive, voilà, un décalage entre mes, le pourquoi de mon travail et mes convictions qui grandissaient sur le sujet, qui est devenu, enfin, ce décalage est devenu tellement fort que ça devenait insoutenable et ça avait plus de sens, quoi. Il fallait que j'arrête ça et que je fasse autre chose, quoi.
Et quelle conclusion tu en as tiré? Vers quel monde tu as décidé de te diriger?
Donc, je suis parti vers un monde, vers la sobriété.
Voilà, la fameuse. C'est quoi la sobriété pour toi? Parle-nous-en, dis-nous tout. Tu m'as dit avant de commencer l'interview, j'aimerais bien écrire un livre. Je t'ai demandé quel sujet, tu m'as dit, bah, la sobriété.
Ouais.
Donc, dis-nous tout, qu'est-ce que t'écrirais?
Bah, la sobriété, si on pouvait la définir simplement, aujourd'hui, je pense que c'est moins, mais mieux. Donc, c'est... moins voyager mais mieux le faire, moins consommer de viande mais même consommer de la meilleure viande. C'est, en fait, c'est vraiment la sobriété, à la différence de beaucoup de changements qu'il y a eu ces dernières décennies, c'est un changement avant tout comportemental. Ça vient plus des émotions que de la technologie, que de l'économie ou quoi. C'est vraiment une volonté de ralentir. On pourrait, j'aime presque plus le terme satiété.
Oui.
Voilà, on s'arrête non pas parce qu'on a trop mangé, mais parce qu'on considère qu'on a assez mangé, qu'on n'a pas besoin de plus. Et donc voilà, moi, ce moins mais mieux, c'est vraiment ma directive. C'est moins faire beaucoup de choses, mais mieux les faire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la démarche de la sobriété, dans la démarche de la sobriété, on est convaincu que pour réussir à réduire notre empreinte environnementale et sociale, il faut pas seulement de l'innovation et de l'efficacité énergétique, mais il faut aussi une réduction de notre consommation d'énergie et de ressources naturelles, puisqu'on est sur une planète finie. On peut pas croître et exploiter tout ça de manière infinie. Donc il nous faut absolument une réduction, et donc avec, pour cette réduction, il nous faut un changement des comportements, un changement des modes de vie, des valeurs, des croyances, des symboles. C'est tout ça, la sobriété, c'est cette quête d'une vie qui va nous rendre heureux, nous permettre de se loger, se nourrir, être en bonne santé, avoir des liens sociaux, mais qui va aussi respecter nos limites planétaires, qui va respecter le vivant et qui va faire que on va pouvoir rester dans un espace sûr pour l'humanité.
Et au-delà de la préservation de l'environnement, quels bénéfices personnels on peut tirer en adoptant un mode de vie plus sobre? Parce que la sobriété, c'est aussi devenu un gros mot quand même, où on a l'impression que c'est simplement faire des sacrifices, être dans la privation, et on voit pas cet aspect beaucoup plus positif derrière.
Exactement, exactement. Et c'est un vrai travail de fond qui doit être fait là-dessus. Et une des façons de rendre sexy la sobriété, c'est pas tant de parler d'écologie, mais c'est de parler de co-bénéfices.
Bien sûr.
De parler de ce que ça peut nous apporter en termes de santé, en termes de relations humaines, en termes de rapport au travail, ce genre de choses. Parce que effectivement, la sobriété ouvre la voie à un mode de vie moins aliéné au travail. On a moins besoin de gagner. On peut moins travailler, donc là c'est moins mais moins, mais surtout peut-être mieux travailler, c'est-à-dire ne pas faire du 8h, 20h ou même plus court, mais d'être extrêmement stressé par son travail parce qu'on a plein de prêts bancaires sur le dos, parce que tous nos, finalement dans la société actuelle, tous nos plaisirs, tous nos échappatoires sont monétisés. Donc pour pouvoir avoir du bonheur, vivre de belles choses à côté du travail, il faut gagner de l'argent. Et la sobriété dit, bah, on va en gagner moins, on va changer nos bonheurs, mais par contre, voilà, on va toujours avoir une énorme joie de vivre, mais on aura moins besoin de travailler pour le faire. Donc déjà, moi, pour moi, un gros truc, c'est la fin de l'aliénation au travail. C'est peut-être un des piliers des bénéfices de la sobriété.
Bah alors là, je reviens à une question très rationnelle. Comment toi, est-ce que tu t'es détaché de cette aliénation au travail tout en quand même continuant à gagner ta vie un minimum?
Eh ben, c'est pas une chose simple de le faire tout seul. Il y a une théorie qui est belle, il y a une pratique qui est difficile. Pour autant, déjà, moi, je suis pas dans une ville du travail. J'habite à Marseille.
À Marseille, on travaille pas.
C'est une grande ville.
On fait de la plongée, on va voir les poissons.
C'est ça. Marseille, c'est quand même pas la ville qui a le plus la culture du workaholic, de l'addiction au travail.
Ouais.
Et déjà, d'être dans un environnement qui est moins carriériste, ça libère énormément. Alors, on retrouve cette pression, je trouve, un peu via les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où je vois une course un peu folle en ce moment à qui postera quoi et qui fait ceci et cela.
Ouais.
Il y a une nouvelle accélération qui me fait peur, même si elle est saine, entre guillemets, à la base. Mais moi, déjà, je me suis écarté de ce monde du travail et je pense que ma deuxième étape assez proche, ça va être m'écarter encore plus d'une grande ville pour aller dans un environnement, pas de campagne, mais de petite ville où il y aura encore moins cette pression carriériste, donc de me libérer de ça. Ça, c'est une première démarche, c'est le choix de là où je vis. Je dirais qu'une autre chose, c'est m'imposer. En fait, moi, je suis un passionné de sport et d'aventure.
Mmh.
Quand il y a du vent, je craque, par exemple. Toute ma to-do list s'effondre et je vais faire du kitesurf. Et donc, c'est bien d'avoir d'autres désirs que juste réussir professionnellement. Donc, de cultiver, de nourrir ces autres désirs qui sont des désirs sobres. Alors, bien sûr, kitesurf, c'est pas forcément sobre. Il faut s'acheter du matériel assez cher. Mais je sais pas, marcher, se courir, aller planter des légumes. Moi, j'aime bien faire tout ça. Et c'est des désirs, des choses qui m'excitent. Et donc, j'ai très envie de faire au point que ça prend le dessus sur le besoin de travailler dans certains moments et ça me libère de ça. Et donc, je me retrouve dans un équilibre de vie assez sain. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Hein. Ça m'arrive de tomber dans l'addiction. Mais
L'addiction au travail?
L'addiction au travail, exactement. Je trouve que de plus en plus, je m'en détache puisqu'à force de marteler que la sobriété, au-delà de la marketer, il faut la vivre. Bah, je finis un peu par la vivre. Même dans mes revenus, moi, je suis en train de... Vraiment, je crois pas trop entre l'année dernière et cette année dans mes revenus. Enfin, je suis même à l'équilibre, quoi. Et c'est marrant, je me suis assez libéré psychologiquement de ce besoin d'aller toujours augmenter mes revenus parce que j'ai aussi baissé mes besoins et que je me dis, c'est ça la sobriété, c'est de pas toujours chercher à gagner plus, à faire plus.
Et tu n'as jamais cette impression de ne pas gagner assez ou cette peur de ne pas avoir assez?
J'ai un peu cette peur sur la retraite, notamment. Pas tant sur le court terme. Je me rends compte que je satisfais à tous mes besoins. Donc ça va très bien sur le court terme. J'ai pas du tout d'appréhension. Quand je dirais court terme, c'est sur 10-20 ans. Et par contre, j'ai un peu la peur du problème de si j'ai plus d'argent ou peu d'argent et j'ai des problèmes de santé. J'ai une très petite retraite. Ça me fait un peu peur. Je sais pas encore comment me libérer de ça. Je pense qu'il faut que je rencontre des gens qui vivent dans la sobriété même en étant plus âgés, qui vivent dans la sobriété post-carrière pour me rassurer parce que je suis sûr et certain que ça se fait et que ça se fait bien, mais j'ai pas beaucoup d'exemples. Voilà.
D'autant que donc ton travail, si on met le mot derrière tout ça, c'est une accumulation de différents projets qui sont tes passions, d'où peut-être ton addiction au travail comme tu nous en parlais, mais ça reste quand même assez précaire. C'est pas un CDI que tu as signé sur 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler concrètement de tes activités au quotidien qui font que tu gagnes ta vie sobrement, mais que tu gagnes ta vie quand même?
Oui, bien sûr. Effectivement, mon travail, je suis auto-entrepreneur. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à mon compte. Pour gagner ma vie en parallèle de mes aventures sportives et de mes défis citoyens, donc de ce projet Expédition Zéro, j'ai une petite structure bon, qui est une auto-entreprise, mais qui s'appelle Objectif Zéro, est là pour accompagner les entreprises et les collectivités dans cette prise de conscience, dans cette sensibilisation et ce passage à l'action vers la sobriété, vers la transition écologique. Donc on propose 3 services, qui vont de l'inspiration à l'action, des conférences, des ateliers et des défis. Et nous, on est vraiment sur l'aspect accompagner dans le positif, montrant les co-bénéfices pour que les gens voient ça de manière joyeuse, parce que on est pilonné par une écologie de l'anxiété. Et moi-même, ça m'arrive de partager des choses anxiogènes parce que je suis en colère, mais je me rappelle régulièrement que sur le long terme, c'est pas ça qui imprègne et c'est pas ça qui est souhaitable. Donc on a cette approche là, donc c'est ce que je fais pour gagner ma vie à côté de mes aventures.
Donc programme de sensibilisation qui sont dirigés par trois grands piliers: ici on inspire, ici on comprend, ici on passe à l'action. Tu nous parlais de cette éco-anxiété qui parfois aussi peut t'habiter. Toi, une de tes antidotes, c'est de partir en nature et de faire des expéditions assez farfelues. Tu as notamment traversé les Alpes à pied pendant un mois. Au-delà de l'exploit sportif et de l'exemple que tu peux incarner en faisant ça, qu'est-ce que toi, personnellement, ces expériences t'apportent, humainement ?
Enfin, moi, ça, c'est la magie, ça. C'est ma bouffée d'oxygène. Tout le monde n'aime pas être seul, mais moi j'aime bien la solitude. Pas trop longtemps non plus, parce que je reste un animal social évidemment, mais souvent ces expéditions je les fais seul. Donc là cet été, alors oui, j'ai fait la traversée des Alpes, mais cet été je reviens de la traversée des Pyrénées en randonnée du Pays Basque, de Banyuls de Hendaye à Banyuls.
Ouais.
Et ça c'est juste la magie absolue. C'est hyper important pour mon équilibre. Justement, voilà, là-haut, il y a un principe technique, c'est qu'il n'y a pas trop de réseau. Donc forcément, je suis obligé de décrocher des téléphones, des réseaux sociaux, de cette addiction-là qui est quand même assez présente, hein, faut pas se leurrer. Et donc, par la contrainte physique, je dois ne pas le faire pendant plusieurs jours. Finalement, c'est même si c'est une sobriété de privilégié de faire de l'aventure, c'est toute la base de la sobriété qu'on retrouve dans une aventure. Notre quotidien est fait de besoins primaires, de bases de pyramide de Maslow, où on cherche un abri pour dormir, on cherche de la nourriture pour pouvoir des forces pour marcher, on marche, de temps en temps on cherche des gens pour parler parce qu'on est seul et on a un besoin de liens sociaux, on veut pas se faire mal, on veut soigner ses bobos, donc on veut rester en bonne santé. Donc on est vraiment sur cette base de la pyramide de Maslow, sur un quotidien extrêmement simple où l'objectif du jour est de marcher, de voir des animaux, de s'émerveiller. C'est la meilleure des thérapies. C'est, on revient à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on théorise tous les jours. Là, on le vit et la montagne permet ça parce que c'est un de ces rares territoires encore un peu sauvages qui sort un peu du cadre de tout est transformable en PIB. Bah, la randonnée en montagne, ça rapporte rien, enfin pas grand chose à grand monde à part à quelques refuges. Mais
au-delà voilà. Du recul que ça te fait prendre sur la société, qu'est-ce que tu as appris sur toi, notamment cet été pendant cette traversée des Pyrénées ?
une bonne question. Cet été en particulier.
Ou à d'autres, pendant d'autres expéditions, mais qu'est-ce que toi, individuellement, ça t'éclaire ?
Alors, moi, j'ai remarqué, en termes d'émotion, que marcher et être dans la nature me rend extrêmement créatif. Je pense qu'on est dans une société, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, on a une société qui détruit la créativité. On est dans une société où tout est piloté, nos quotidiens, notre manière de penser, nos activités. Et c'est assez affligeant de voir à quel point on ne sait plus trop s'évader psychologiquement, lâcher cette partie de ce cerveau qui est beaucoup plus créative. Et en marchant, la marche notamment, le déplacement, le mouvement me libère énormément de cette partie-là. Et j'ai un nombre d'idées incroyables quand je suis dans les montagnes, sur mon vélo ou sur mon kayak ou mon paddle. C'est assez fou, ça fuse dans ma tête. Et je ressens pas du tout ça au quotidien et ça me frustre, ça me rend un peu triste parce que dès que je rentre, là, quand je suis chez moi à Marseille, je perds ça et ça me rend triste. Donc là-haut, je vais rechercher ça. Et alors, je pense que j'ai 1000 idées à la seconde, mais il y en a pas beaucoup qui sont super intelligentes. Mais c'est pas grave, il y en a plein en tout cas.
Tu les notes quand même? T'as un petit carnet avec toi pour écrire toutes ces pensées qui peuvent survenir pendant ces moments de solitude?
Ouais, je note et donc je publie. Pas trop, mais quand même un peu. Avant, j'avais un carnet. Quand je faisais des voyages plus jeunes, j'avais un carnet, mais je les ouvre peu, mes carnets. Là, je note dans mon téléphone. Bon, c'est un peu la modernité, mais au moins, c'est... Parce que, en fait, le problème, c'est que j'ai plein d'idées. Un peu comme la nuit, on a plein d'idées qui paraissent être des idées de génie. On se dit, mais attends, mais je suis un génie, là. Et tu te réveilles et t'as zappé le truc.
Ouais.
Et t'es trop deg.
Non, reviens.
Et t'es là, en fait...
Je l'ai pas noté encore.
En fait, ouais. Tu te dis, bon, donc là, je me dis, vas-y, je le note. Mais c'est vrai que ça part très vite, c'est assez flippant. Je les note et je les poétise. Moi, ça que j'adore, c'est que j'accepte de libérer mon côté, peut-être, je sais pas, c'est un côté féminin, mais une part de moi qui est beaucoup plus dans l'émotion, dans la sensibilité. Et voilà, exactement. Et c'est vrai que, bah ouais, je pleure, ça m'arrive en marchant, je chante, je suis beaucoup plus sensible et j'adore ça. Et ça me rend beaucoup plus poétique aussi dans mes choix de mots, dans mes manières de réfléchir. Et donc moi, ce que j'adore faire, c'est écrire des poèmes. Voilà.
Et bravo de t'autoriser ça et d'accueillir aussi toutes ces émotions, parce que c'est, je sais à quel point c'est pas facile.
Mais non, c'est, bah ouais, c'est petite anecdote. Enfin, je me suis vraiment effondré en larmes à la fin de la traversée des Pyrénées, parce que en voyant la Méditerranée, trop plein d'émotions et moments de fou, magique, suspendu, hors du
et
temps.
Et c'est à toi, en toi.
Voilà, c'est à moi. Et je me suis, donc j'ai longtemps pleuré à la fin. Parce que je voulais le garder que pour moi, mais à la fin, j'ai quand même fait une mini story.
Je l'avais vu. Voilà. Et qui m'a beaucoup touché d'ailleurs. C'était
voilà,
très
j'ai
beau.
Quand même fait une mini story en le partageant. Et donc, j'ai eu beaucoup de soutien. Alors, beaucoup de messages bienveillants, notamment de filles. Et je sais pas trop pour les mecs, mais en tout cas, j'ai revu des copains de Bretagne il y a pas longtemps. Et ils se sont un peu moqués, ils m'ont taquiné. Donc, et ça montre, et après on en a reparlé plus en douceur, et en fait c'était bonne guerre, il n'y a pas de souci, mais ça montre quand même qu'on est enfermé dans nos clichés, quoi.
Un homme, ça doit pas pleurer.
Un homme, ça doit pas pleurer, et puis bah, comme on n'est pas à l'aise, on se moque, c'est du sarcasme. On a encore du boulot, parce que ça fait tellement du bien. En fait, c'est dommage qu'on ait emprisonné la moitié de nos émotions.
Bien sûr.
Par masculinité, par
des dictats.
Voilà, par dictat. Et ça, c'est pas normal. Et moi, j'ai envie qu'on libère ça, parce que ce moment-là, ça fait partie des trucs sur ta frise chronologique de ta vie où tu mets un petit trait et tu te dis ce moment-là, il restera gravé, quoi.
Tu penses que la solitude, ces moments comme ça privilégiés avec soi-même, c'est une des façons aussi de toucher à cette sobriété, de mettre de la sobriété dans nos vies?
Je pense. La solitude, c'est... Pareil, on est dans une société qui a peur de la solitude, c'est incroyable. C'est mal vu, déjà. Si t'es pas à l'école, au lycée, au collège, t'as pas une bande de copains, t'es un loser. Et alors que la solitude est hyper bonne pour l'équilibre, pour sa santé mentale, parce qu'on peut justement s'évader, on a plus de temps pour réfléchir à des choses, on pense par soi-même, on n'est pas juste soumis à plein d'autres intrants, on va dire, des paroles, des messages. Donc moi, je pense que la solitude nous libère, nous rend poétique, nous rend sage.
Mais elle fait peur.
Elle fait peur, elle fait très peur, la solitude. Surtout dans la nature, parce qu'on est face à nos démons, à l'époque peut-être où on était des hommes préhistoriques, je sais pas, on était à la merci des bêtes. Et oui, moi je me suis retrouvé face à des sangliers, et c'est flippant, mais c'est incroyable, enfin, c'est génial d'oser vivre ça, d'accepter ça. Et effectivement, je pense que la sobriété crée de l'humilité, parce qu'on se rend compte, notamment dans la sobriété en pleine nature, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est à la merci de beaucoup de choses, qu'on dépend aussi des autres, dans nos émotions, dans notre bien-être. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a trop fui, la solitude et la créativité.
La liberté, comment tu la définis ?
Alors la liberté, c'est sûr que pour l'instant, dans mon statut de vie, quand je dis je me sens libre, c'est vrai que c'est un peu ces moments où je suis seul à marcher, etc. C'est une liberté un peu égoïste, je pense, mais pour moi, cette liberté, c'est vraiment quand je me réveille sur la HRP, la haute route des Pyrénées, un matin, que j'ai dormi en haut d'un sommet, puisque je me suis arrêté là, parce que j'étais fatigué, tu vois, je m'étais pas imposé plus que ça, c'était juste, je me suis arrêté au moment où j'étais fatigué, j'ai trouvé des cailloux, j'ai posé ma couverture de survie, mon duvet, j'ai dormi, je me réveille un peu quand je veux, là, je pars, et puis je vois des chamois à gauche, donc je vais finalement changer de chemin pour aller les voir, ça me fait un détour, et c'est ça la liberté, c'est une espèce d'accepter l'imprévu et de changer ses plans à la dernière minute. Moi, je suis quelqu'un qui adore, et je sais que ça me pose pas mal de problèmes dans mon travail et dans plusieurs choses dans ma vie, mais j'aime pas trop la planification. Et ça, c'est pour moi la liberté. C'est d'accepter l'imprévu, de se laisser la surprise, les changements de dernière minute. Je trouve que c'est extrêmement grisant. Et pour moi, c'est vraiment ça, la liberté. C'est d'avoir la chance que tout ne soit pas planifié dans sa vie.
Ouais. Et c'est pas évident de se l'autoriser, cet imprévu.
C'est pas du tout évident.
On a plus tendance à tout mettre dans des cases.
Bien sûr, et puis dans des agendas. Des agendas. Bah, bien sûr, parce que déjà, c'est un respect pour l'autre. Enfin, tout le monde ne peut pas s'organiser à la dernière minute.
On a quand même dû prévoir cette interview voilà. Quelques semaines à l'avance.
C'est ça, on a dû la prévoir. Bon, ouais. J'ai décalé un peu l'horaire.
Ah oui.
T'as été très gentiment, t'as accepté. Mais c'est pas évident. Ça peut affecter les autres. C'est un peu antisocial parfois. Mais ça fait un bien fou, quoi, d'avoir encore ces champs d'imprévus, ces moments de surprise, quoi. Et moi, j'adore ça. C'est ouf.
C'est là que la vie opère.
Et c'est là que c'est là que tu te sens vivant, quoi. Moi, j'ai toujours aimé les soirées, par exemple, si on parle des soirées, les soirées où je m'attends à rien, tu vois, j'y vais et je sais pas trop ce que ça va donner et tout. Et finalement, en fait, c'est incroyable. Ça part en vrille. Finalement, on va d'un bar à un autre, puis on finit à danser je sais pas où, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe une espèce de magie. Et à la conclusion de tout ça, c'est que c'était pas prévu, en fait. Et quand ça fait un mois qu'on attend une soirée, qu'on a beaucoup d'appréhension et d'attente, bah, je trouve que rapidement, ça arrive souvent qu'on soit déçu parce qu'il y a un décalage entre les attentes et la réalité, alors que là, il n'y avait pas d'attente. Donc voilà, c'est magique, quoi.
Est-ce que si on dégrossit cet exemple, tu dirais qu'il vaudrait mieux ne pas avoir d'attente du tout, pour rien ?
Je pense que c'est compliqué de ne pas avoir d'attente, mais je pense que ce serait assez sain de se libérer des carcans, de tout ce schéma de vie qu'on nous impose et qui nous fait qu'on a des attentes tout le temps, en fait. On est dans un escalator, hein, ce fameux escalator où il y a les étapes, on grandit, on va à l'école, on rencontre quelqu'un, on se fiance, on se marie, on a des enfants, des petits-enfants, et puis on finit dans la boîte, quoi. Et du coup, bah, toute la vie a des grandes étapes. On célèbre le mariage, on célèbre les 10 ans de mariage, on célèbre
L'enfant,
l'achat de la maison, on célèbre plein de choses. L'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, ça, c'est quand même flippant. Et en fait, tout est structuré comme ça. Donc, c'est un peu pénible et pas très fun de se dire « je me réveille et je sais déjà tout ce qui va se passer si je suis le schéma ». Et je pense qu'on gagnerait à être moins stressé parce que comme ces schémas finissent par nous imposer quoi ? Bah, des attentes nous finissent par nous imposer une pression qui est qu'il faut faire ça et nos parents sont déçus si on le fait pas parce qu'ils réfléchissent dans ce moule et nous on se met à réfléchir dans le moule et donc on est déçus, on n'a pas fait, je sais pas, si on a eu un enfant avant le mariage, pour certains c'est un drame, si on a eu, j'en sais rien, il y a plein de choses comme ça. Je me dis, mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on se libère de ça. Donc ouais, je pense que on gagnerait en bien-être, en santé mentale, à se relâcher la pression. On le voit, hein, la société évolue. Je vois dans des pays comme en Allemagne, déjà cette pression du mariage des enfants, elle est beaucoup plus tardive. Et je pense que faut que ce soit au ressenti. Faut qu'on soit une société du ressenti, voilà.
Comment on reconnecte à ces ressentis avec ces moments de solitude dans la nature?
Ouais, au moment de solitude, mais je pense même au quotidien. Moi, je me rends bien compte que cette histoire de voix dans le ventre, moi, j'entends cette petite voix qui est plutôt un mal de ventre ou une libération des boyaux, on va dire. C'est un vrai métronome et je pense qu'il faut l'écouter. On le dit toujours, c'est très facile dans la théorie de le dire. Dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. Moi, je peux dire que pour pas mal de choses dans ma vie, je l'ai pas encore écouté et je souffre. Mais pour le choix de ma voie professionnelle, je l'ai écouté. Alors, ça a été houleux. Hein. J'ai dû faire pas mal d'erreurs, des souffrances, des choses comme ça. Pour autant, là, je la suis depuis 2 ans et demi avec ce projet et c'est incroyable. Et vraiment, je n'exagère pas, je ne markete pas le mot incroyable. Je suis vraiment hyper aligné. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des stress financiers à des moments, des déceptions, des agacements, mais en fait, je le sais, c'est ma voix. Il y a plus de débat, en fait.
Et puis, tu te sens libre et heureux tous les matins de te lever.
Voilà, et je suis surexcité dimanche. Enfin, vraiment, je suis surexcité dimanche. Et ça me paraît être un privilège de fou. J'ai un copain qui gagne incroyablement bien sa vie dans une grande banque et il a fait un burn-out et il est pas bien le dimanche. Et je me dis, mais moi, je gagne 10 fois moins que lui. Et je suis surexcité le dimanche, en fait. Et ça... C'est pas du, mais encore une fois, c'est pas juste de la com, ce que je suis en train de faire. C'est quand on atteint ça, c'est de l'ordre du nirvana, je pense.
Et c'est accessible à tous.
Et c'est hyper accessible. C'est hyper accessible. Pas besoin d'aller faire une grande carrière. On peut ouvrir un café. On peut faire des choses. On peut cultiver un potager. Ça peut être dans le travail ou ça peut être dans autre chose. Globalement, il y a une petite voix en nous qui nous dit qui est une vérité qu'on a du mal à écouter, mais souvent elle a raison, cette voix.
Toujours.
Voilà, elle a toujours raison. Finalement, mon moins, c'est déjà énorme par rapport à beaucoup de gens. Et puis, j'ai pas les mêmes contraintes, je suis en bonne santé. Enfin, voilà. Il y a un luxe là-dedans, évidemment.
La santé, c'est quand même le plus gros des luxes.
Ouais, la santé, c'est le plus gros des luxes.
Benjamin, dernière petite question. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui pour clôturer cette interview?
Écoute...
C'est le moment de tout lâcher, là. Ouais.
Je pense qu'il faut... je pense vraiment qu'il faut rester sur cette dynamique de s'écouter. Alors, c'est un peu bateau, mais il faut essayer au moins de s'écouter. Quitte à se planter, quitte à qu'on revienne dans les rails derrière, je pense que tout le monde a des rêves. Alors, ils évoluent en fonction de nos âges, nos situations. Mais c'est quand même vraiment, vraiment important d'essayer, si on peut se le permettre, de creuser le truc, quitte à prendre des risques. Moi, je suis assez atterré de voir tous mes amis qui ne prennent pas de risques, qui ont enchaîné collège, lycée, école ou pas, d'ailleurs, s'ils n'ont pas fait d'école, mais en tout cas, qui ont un peu tous enchaîné avec une carrière, etc. Et ils ont des rêves qui sont assez irrationnels par rapport au schéma classique, je sais pas, brasser de la bière pour un copain qui est dans la finance ou des choses comme ça. Franchement, on a un privilège de ouf, on est français. Rien que ça, on vit dans un pays qui a un défilé de sécurité dingue. Tout le monde doit essayer de tenter son rêve, quoi. Enfin, ça peut pas être le big rêve, je veux pas mettre la pression sur le big rêve, mais en tout cas, tenter un projet qui le fait vibrer. Donc, il faut tenter un projet qui te fait vibrer. Ça libère, quoi, d'avoir au moins essayé, quoi. Et puis souvent, quand on y croit, je dirais pas que ça marche, mais il se passe quelque chose. Ça prend peut-être pas la forme qu'on avait prévue au début, mais ça va créer soit un trait de personnalité, soit une histoire, soit un projet.
Une rencontre.
Une rencontre. Quelque chose qui va nous rendre fiers, en fait, qui va nous rendre fiers. Et donc, ça, c'est très important. Et sur le plan de l'écologie, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on est matraqué par de la pub, par des réseaux sociaux qui nous font rêver sur de la consommation. Donc, il faut essayer de prendre du recul là-dessus, d'être assez critique. C'est vraiment dur, je l'accorde. C'est frustrant aussi parce que forcément, c'est très bien vendu. L'autre piste, elle est très bien vendue.
Clairement.
Elle est
clair.
Extrêmement bien vendue.
Très alléchante.
Ouais, et elle me donne trop envie, tu vois, de temps en temps.
Ah bah oui, mais clairement.
Voilà, et il faut réussir un peu à lutter contre cette aspiration, cette fascination pour ces choses, tenter le moins mais mieux. Moi, je pense que si un petit exercice que je peux confier à tout le monde là maintenant,
allez,
c'est de prendre cette expression « moins mais mieux » et d'imaginer trois phrases. Alors, comme j'ai dit, moi, moins prendre l'avion, mais mieux, moins voyager, mais mieux voyager, ou moins prendre l'avion, mais faire des vols qui valent vraiment le coup. Donc, prendre trois fois cette phrase « moins mais mieux » et d'essayer d'imaginer trois actions qu'on serait prêt à faire vers la sobriété.
Moins de
soi-même.
Relations, mais plus de vraies relations.
Voilà, voilà, on voit la une. Voilà, prenez ce moins mais mieux, imaginez trois phrases qui vous amènent vers la sobriété et vous dites ça, je suis prêt à le faire ou ça m'attire. Pensez aux co-bénéfices. Pensez à, non pas genre le vélo, c'est pas seulement réduire son empreinte carbone, c'est faire du sport. C'est voyager de manière douce, voir les paysages défiler. Assez vite, mais quand même lentement, que voyez ça comme ça. Voyez les co-bénéfices et voyez le moins mais mieux dans toutes ces actions vers la sobriété et vous en serez juste plus libéré et heureux, quoi.
Super. Ben, on va terminer cette interview sur ce bel exercice. Merci.
Allez au boulot.
Merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces partages et je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver en barre d'infos.
Ben, merci, Victoria, pour ton temps et cette interview. Je suis ravi.
Ben, pareillement. Merci à toi. Salut.
Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter.
J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.